RFI vous présente Afrique Presse.
Hassan Diop.
Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité débattue sur RFI et Télé 5 Monde par Sabine Cessou, journaliste indépendante, Pascal Hérault du journal L'Opinion et Francis Patindé, journaliste indépendant et chargé de cours à Sciences Po Paris. Et c'est autour de deux sujets cette semaine, hein, les enjeux politiques autour des funérailles de l'opposant congolais Étienne Tshisekedi en RDC et puis au Cameroun, la poursuite de la fronde dans les régions anglophones et des leaders de cette contestation toujours en détention. Alors à quand les funérailles d'Étienne Tshisekedi alors que les restes de l'opposant congolais sont toujours en Belgique où il s'est éteint le 1er février? Eh bien les Congolais qui veulent lui rendre un dernier hommage ne sont toujours pas fixés. Ces obsèques sont pour l'instant hypothéquées par le bras de fer entre d'un côté la famille et les héritiers politiques de l'illustre défunt et de l'autre le pouvoir de Joseph Kabila. Le résumé du sujet par Laure de Matos de TV5 Monde.
Le siège de l'UDPS, le parti de feu Étienne Tshisekedi. C'est le lieu où ceux qui souhaitent rendre hommage à l'ancien opposant décédé se rassemblent. Ce mardi matin, des chants de deuil en Tshibula accompagnent les anonymes et les personnalités venues se recueillir. À l'image de Mgr Fridolin Ambongo, le vice-président de la conférence épiscopale de la RDC. Près de deux semaines après la mort d'Étienne Tshisekedi, aucune date n'est fixée pour le retour de sa dépouille. La famille Tshisekedi et l'UDPS attendent des garanties du pouvoir. Ils craignent que des funérailles mal organisées ne suscitent des violences à Kinshasa.
Il y aura d'ici peu des contacts, des discussions pour dégager un compromis qui va permettre à ce que le corps soit rapatrié et effectivement qu'on lui réserve les obsèques qui sont les obsèques grandioses parce que Tshisekedi a été grand.
Des obsèques grandioses avant qu'Étienne Tshisekedi ne repose dans un mausolée. C'est l'autre point de désaccord entre les deux parties. L'UDPS a évoqué deux sites symboliques au cœur de la capitale congolaise, le Palais du Peuple et les alentours du ministère de la Justice. Des propositions rejetées par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, mais le pouvoir se dit force de proposition.
Le gouverneur de la ville a même pris la précaution de préparer deux sites qu'il va soumettre au choix de la famille. Les travaux d'aménagement de ces sites ont même déjà commencé. On n'a pas attendu qu'ils reviennent.
Ces obsèques, très politiques, butent aussi sur la question de la mise en œuvre effective de l'accord du 31 décembre dernier, censé sortir le pays de la crise liée au maintien au pouvoir de Joseph Kabila. Lundi, Félix Tshisekedi, le fils et successeur d'Étienne, a assuré qu'elle n'était pas une condition au retour de la dépouille de son père en RDC.
Voilà, une précision hein, pour nos auditeurs radio. Hein, on a entendu successivement dans ce sujet Bruno Tshibala de l'UDPS, le secrétaire général adjoint du parti fondé par Étienne Tshisekedi, et puis Lambert Mende, qui est le porte-parole, ministre de la Communication donc du gouvernement congolais. Alors, Sabine Cessou, hein, même dans la mort, Étienne Tshisekedi, l'opposant historique, hein, continue de peser de tout son poids sur cette scène politique congolaise.
Oui, le Congo pleure la disparition d'un opposant historique et ça redistribue un peu les cartes puisque du coup Moïse Katumbi peut se positionner comme la principale alternative à cette nuance près qu'il y a un problème de confiance entre les différents cercles des opposants en RDC parce que Moïse Katumbi est arrivé à l'opposition assez récemment. Par rapport à Étienne Tshisekedi.
En quittant les rangs du pouvoir.
Voilà, en quittant les rangs, son poste de gouverneur de la province du Katanga. Donc, une partie de la donne se trouve dans la complexité de la situation de Moïse Katumbi, qui est poursuivi en justice, qui ne peut pas revenir, qui voudrait, disent certains médias, mais c'est à vérifier, rentrer à Kinshasa avec la dépouille de Tshisekedi. Le jeu reste largement ouvert et la force d'inertie du côté du pouvoir est totale, reste totale, on le voit bien. Même dans l'organisation de ces obsèques, c'est assez fascinant.
Alors, la famille, hein, Félix Tshisekedi, Francis Patindé, n'a pas désavoué Maurice Katumbi, hein, qui a, semble-t-il, demandé à pouvoir entrer en RDC avec la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi, parce que Maurice Katumbi, hein, fait l'objet de condamnations, jugé plutôt des condamnations politiques plutôt que de condamnations fondées sur le plan juridique. Cela étant, pour revenir à Félix Tshisekedi, il dit que son père appartient au patrimoine national de la RDC, et réclame donc l'édification d'un mausolée en plein cœur de Kinshasa, une requête que ne veut pas véritablement satisfaire le pouvoir, en tout cas pas dans les conditions exigées par le fils.
Tshisekedi a été un grand opposant, non seulement congolais, mais également africain. Donc il a également, on l'oublie souvent, il a été Premier ministre du Congo. Donc c'est un homme d'une stature nationale qui a été inébranlable dans certaines de ses convictions. Je pense qu'il mérite des obsèques nationales. Absolument. Le problème, c'est que tout le monde aujourd'hui cherche à récupérer sa dépouille, sa famille biologique, sa famille politique, à qui d'ailleurs devrait revenir le dernier mot, mais également le pouvoir qui veut en profiter pour se refaire une santé, mais les autres opposants également. Vous parliez tout à l'heure de Moïse Katumbi, qui effectivement veut prendre ce train en marche pour retourner et profiter de recueillir les fruits de ses absences nationales. Je trouve qu'il faut respecter la mémoire du défunt, il faut respecter les volontés de sa famille et de ses amis politiques à qui devrait revenir le dernier mot.
Mmh. Pascal ?
Oui, il y a des exigences qui sont peut-être difficilement réalisables, comme l'érection d'un mausolée.
C'est pas un peu anachronique, un mausolée à la Lénine, à la Mao ?
Oui, mais c'est à l'image aussi du personnage qui s'est quand même opposé, qui a été le principal opposant, qui s'est opposé au maréchal Mobutu, qui s'est opposé à Kabila père, qui s'est opposé à Kabila fils. Alors, on est en plein bras de fer, on est dans l'impasse, on n'a pas de date de retour, avec d'un côté un pouvoir qui essaye de récupérer l'événement, qui veut l'organiser, qui veut le financer, qui veut en profiter aussi certainement pour gagner du temps et pour peser sur des négociations que le pouvoir pourrait aimer reprendre ou revoir à ses propres conditions. On sait que l'accord du 31 décembre n'a pas connu un début d'application. Puis d'un autre côté, on a la famille, on a l'UDPS qui est profondément divisée, ça il faut le savoir, entre les plus intransigeants qui incarnent la ligne ferme d'Étienne Tshisekedi. Donc on est dans ces jeux de pouvoir d'un côté et de l'autre. On ne sait pas quelle va être l'issue. Le temps, à mon avis, joue pour le président en place. Si c'était déjà sa stratégie, la stratégie du glissement. Après, il faut voir si l'UDPS va réussir à rester uni dans ces événements et à savoir si les pressions extérieures, la conférence épiscopale, l'Union européenne, l'Union africaine, qui ont aussi pris position pour l'application de cet accord, si tout le monde va rester soudé pour faire pression sur le pouvoir et pour qu'on puisse vraiment aboutir à une transition. On commence à voir des signes quand le pouvoir dit qu'il ne pourra peut-être pas organiser les élections à la fin de l'année, qu'elles n'ont pas été budgétisées. C'est 1,5 milliard, c'est 3 élections, c'est des provinciales, des municipales et une élection...
Sabine, est-ce que il n'y a pas de crainte non plus de voir le rassemblement de l'opposition, hein, ce mouvement qui a été fondé par Moïse Katumbi, Tshisekedi, en Belgique, je crois que c'était en juin dernier, voire également ce mouvement menacé. D'ailleurs, l'une des conditions du retour du corps, mais ensuite la famille est revenue sur cette condition, était la nomination d'un Premier ministre issu des rangs du rassemblement de l'opposition.
Je ne pense pas que le rassemblement soit fondamentalement menacé, parce qu'il y a quand même des enjeux politiques forts au Congo qui dépassent même la personne d'Étienne Tshisekedi. Le respect de la Constitution, l'organisation des élections, toute la société civile quand même est vent debout pour faire respecter les règles du jeu. Et la présence de cette plateforme de l'opposition ne me paraît pas remise en cause directement maintenant, non ?
D'accord.
Sauf si, évidemment, l'UDPS explose et ça, ce serait compliqué après à gérer. Ouais.
Alors, Pascal a évoqué, Francis, les pressions à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Mais il y a l'ONG de défense des droits de l'homme congolaise, La Voix des Sans-Voix, qui a tiré la sonnette d'alarme le week-end dernier en disant attention à cette instrumentalisation autour de la dépouille mortelle de Kabila. Évidemment, instrumentalisation par, je dirais, les deux bords. Et disant clairement qu'il y a peut-être un risque d'un retour à la violence, finalement.
Je pense qu'ils ont raison, parce que je pense qu'il faut parer au plus pressé, et que le pouvoir a tout intérêt à ce que ça dure, parce qu'ils viennent de gagner dans un répit, un sursis d'un an, et je pense que, comme le disait Pascal tout à l'heure, rien n'est prêt, c'est pas budgétisé, et il y a lieu de croire que M. Kabila joue de tout cela et qu'il prolonge son mandat.
Pascal, ce qui est désolant, c'est que la RDC allait mieux il y a quelques années, il y a peut-être 3-4 ans. Il y avait eu ces brigades, ces interventions à l'Est, donc la situation sécuritaire avait tendance à s'arranger. Et aujourd'hui, on retrouve une situation économique qui est déplorable. Je lisais ce matin la dernière note de Standard & Poor's. C'est, il n'y a plus de réserves de change dans le pays. Il y a une inflation qui repart. La situation sécuritaire dans la région, dans la province de Tanganyika est explosive. Il y a des combats dans sud-soudanais qui passent la frontière. Donc la situation est très précaire. On a plutôt intérêt à aller vite à ces élections et à repartir avec un gouvernement, un programme de travail et avoir en perspective des élections qui permettront d'assurer une transition qui pourrait...
En tout cas, ce pourrissement de la situation ne peut que profiter à Kabila. Voilà, RFI TV 5 Monde Afrique Presse, et l'on passe à notre deuxième sujet, hein, cette contestation qui se poursuit dans les provinces anglophones du Cameroun. Deux provinces, des enseignants, des avocats sont en grève depuis plus de 2 mois pour protester contre la marginalisation sociale, économique et culturelle de leur région. Alors, l'armée a été déployée, Sabine, des manifestants réprimés, des contestataires arrêtés, déférés devant la justice. 3 procès ont été repoussés cette semaine. Alors, des élus du RDPC, le parti au pouvoir, sont intervenus auprès du président Paul Biya pour lui demander de faire preuve de mansuétude à l'égard de ces 3 leaders de l'opposition, dont un universitaire, un avocat, afin de les libérer. Mais ces mêmes élus, ces mêmes députés soutiennent son traitement de cette crise. Or, il se trouve que c'est un traitement plutôt musclé plutôt que politique, c'est-à-dire il répond par la répression, je dirais, par une attitude très politique à des revendications qui ne sont pas politiques, somme toute.
Oui, on voit bien toute la nature autocratique du régime dans la façon dont il répond à ces doléances qui sont quand même anciennes, qui ne sont pas nouvelles et qui ressurgissent de manière récurrente au Cameroun. Il y a un problème depuis le début, depuis l'indépendance et depuis surtout la suppression des régions fédérées anglophones en 72 par le régime d'Ahidjo. Je crois qu'il y a un problème sévère de gouvernance au Cameroun qui fait que quand la police se livre à des brutalités, quand des radios sont fermées, manu militari, quand des journalistes sont arrêtés...
Internet suspendu depuis plus de 5 semaines.
Je crois que, en fait, la brutalité de la réponse empoisonne complètement la question et finalement la rend encore plus brûlante, violente et difficile à traiter.
L'attitude du gouvernement du pouvoir de Yaoundé est d'autant plus mal ressentie que on l'avait déjà évoqué ici à ce plateau, sur ce plateau, et d'autant plus mal ressentie que ces deux régions anglophone pourvoit en grande partie les richesses du pays, c'est-à-dire les richesses du Cameroun dépendent 80% dit-on des ressources qui proviennent notamment des ressources pétrolières de cette région, Francis.
Oui, en effet, mais le vrai problème au-delà de la langue, parce que quand on dit que c'est des anglophones, la plupart d'entre eux parlent le pidgin, qui est en fait un créole, c'est pas l'anglais, académique de Londres et tout. Au-delà de ça, c'est un problème de gouvernance, un problème de pouvoir qui se pose au Cameroun. Vous allez voir, c'est un glacis, c'est une chape de plomb épaisse sur ce pays depuis des années. Le président, on dit qu'il est arrivé au pouvoir en 1982, mais il était dans les allées du pouvoir. Il était à la présidence depuis 1962. Donc le combat des soi-disant anglophones aujourd'hui, c'est un combat pour la démocratie, c'est un combat pour le fédéralisme, peut-être parce qu'ils demandent le respect de leur culture, de leur spécificité, de leur singularité. Mais ils se battent pour la démocratie au Cameroun. Et ce qui m'inquiète, moi, c'est le silence de John Fondi, par exemple. Je prends le SDF qui ne dit mot. Et des intellectuels francophones camerounais, de nos amis journalistes, de nos amis avocats camerounais, qui ne disent mot parce qu'ils pensent que leur privilège en tant que francophone est mieux, alors que les gens se battent pour la démocratie.
Alors, Francis l'a plus ou moins évoqué, ça fait donc des années que M. Biya est au pouvoir, et on voit aussi dans ce comportement du pouvoir très dur à l'égard de cette contestation, comme aussi l'illustration de cette fin de règne, et puis aussi peut-être de cette bataille de succession feutrée entre notamment élite militaire et civile à Yaoundé, Pascal.
Vous savez, la fin de règne, on l'annonce déjà depuis très longtemps au Cameroun. Je connais des générations de Camerounais de la diaspora qui rêvent de rentrer au pays.
Vous ne croyez pas à cette
qui rêve. Ouais. On ne sait pas ce que va décider, in fine, le chef.
Et
on parlait l'année dernière même d'avancer les élections pour qu'il puisse se représenter et puis repartir. Je pense qu'une majorité de Camerounais sont désabusés par la situation.
Il ne se trouve pas de gens raisonnables au gouvernement pour dire arrêtons les frais. Mais
c'est un système que vous essayez de sortir la tête de l'eau et le coup de le massue tombe tout de suite.
C'est l'histoire du Cameroun.
C'est un régime totalement opaque avec la complicité d'ailleurs d'une partie de la population et des élites qui font avec lui. Il ne pense pas, il n'arrive pas à penser le Cameroun sans Paul Biya. Alors que ce monsieur est octogénaire, qu'il est au pouvoir, que son pouvoir est vieillissant et fatigué.
C'est vraiment le syndrome de ce que j'appelle le syndrome Mobutu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de quitter le pouvoir de son vivant et quitte à mettre le pays par terre, voilà, on s'entête à rester. C'est la même chose au Zimbabwe. Et évidemment, plus ça va, plus ça devient absurde et kafkaïen, d'ailleurs.
Alors, c'est plus la zone anglophone. L'attitude aussi de la zone anglophone tranche avec la zone francophone. Les francophones sont à peu près 75%. Ils sont extrêmement passifs. Ils subissent de manière passive, je dirais, ce régime complètement vieillissant, omnipotent, alors que effectivement les anglophones disent ras-le-bol, quoi. Changeons, arrêtons.
Ils disent ras-le-bol. Ils sont assez unis dans les manifestations. Ce qu'il faut voir, c'est leur réaction par rapport à la répression brutale. Ça a été de dire, de changer de stratégie, dire on fait des opérations en ville morte, qui sont extrêmement bien suivies et qui dérangent le pouvoir à un point. Et on voit aussi que contrairement à la zone francophone, il y a une nouvelle génération de leaders politiques qui émergent dans la zone. C'est des gens comme Christopher Formuyo, qui est qui est le directeur Afrique du National Institute, ou alors l'avocat Maître Mouna.
Il y a une excellence au Cameroun.
Il y a de grandes figures anglophones camerounaises qui sont effectivement très respectées.
Et au-delà, il y a une excellence camerounaise qui fait briller le pays, malgré son régime, partout dans le monde. Il y a des Camerounais excellents partout.
Donc vous ne voyez pas Paul Biya assouplir sa position, Francis, dans
cette affaire ? Moi, je pense par la répression et les manifestations, ça finira par gagner le reste du pays. Parce que les intérêts sont communs, au-delà des questions linguistiques et tout, il y a une soif de démocratie. Il y a une population qui est extrêmement jeune au Cameroun et qui finira par dire son ras-le-bol à quelqu'un qui a fini son époque.
Un dernier mot.
Il est peut-être un peu tôt pour le dire, mais Pascal, la réunion des parlementaires à Bamenda est peut-être un signe quand même. Les députés ont demandé la libération des prisonniers. Donc c'est peut-être
tout en appuyant la politique de Biya sur cette crise.
Mais en demandant aussi la mise en place de groupes de vigilance. Donc c'est peut-être le signe aussi d'un pouvoir qui voit les limites ou qui va droit dans le mur et qui peut-être essaye une autre stratégie de voir s'il y a une autre alternative.
L'avantage aussi de ces manifestations, c'est de faire que Paul Biya reste enfin dans son pays. Parce qu'il passe plus de temps à l'extérieur qu'au Cameroun.
C'est la fin de cette émission. Merci à vous Sabine Sessou, Francis Patiné, Pascal Hérault, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette édition est disponible sur les sites internet de RFI et de TV5. 5 Monde. Encore un grand merci de votre fidélité à Afrique Presse.